13 mai, c'est la fête de Notre-Dame de Fatima. L'an dernier, à pareille date, le 13 mai, je vous ai fait une émission spéciale sur Notre-Dame de Fatima. La fête a déjà commencé depuis hier à la cathédrale de Montréal. On célèbre déjà depuis hier après-midi. Mais c'est aussi la fête aujourd'hui de Saint-André-Hubert Fournet. Je suis déjà allé à son tombeau en France et je m'étais procuré un très beau livre sur lui et je l'ai relu ces jours-ci. Absolument fascinant, c'est un jeune décrocheur, un drop-out, qui avait beaucoup de difficultés à faire ses études. C'était un jeune un peu insolent. Et finalement, il est devenu prêtre, par intérêt, pour l'argent un peu. Puis il a fini par se convertir et devenu un saint, un prêtre séculier, un saint. Ce mois-ci, j'ai plusieurs prêtres séculiers comme ça, dont Saint Jean-Baptiste Rossi, le 23 mai, un grand serviteur des pauvres, lui aussi. Et je vous parlerai de la grandeur du sacerdoce, particulièrement du sacerdoce des prêtres séculiers. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Saint-André-Hubert Fournet, F-O-U-R-N-E-T, a été curé, simplement, du village où il est né, le village de Maillé. C'est là qu'il est né, donc, le 6 décembre 1752. Il s'est, pour ainsi dire, pas éloigné de son village, sauf à cause de la Révolution française et des persécutions. Il a dû s'en aller en Espagne à un moment donné, pendant 5 ans. Ce village de Maillé, M-A-I-2-L-E accent aigu, se trouve à une quarantaine de kilomètres à l'est de Poitiers, sur la rive droite de la Gartempe. Gartempe, ça peut vouloir dire quelque chose aux amateurs d'art roman. Comme je le suis, j'avais fait un long voyage d'art roman en 1950, moi. C'est à Saint-Savin, sur Gartempe, que se trouvent des fresques romanes absolument remarquables. Une des églises les mieux décorées sur le plan de l'art roman. Des fresques extraordinaires, on peut voir ça dans des bibliothèques. Et c'était tout près donc de chez lui. Et avant la Révolution, le village de Maillé possédait 2 paroisses. Saint-Pierre, qui a donné son nom officiel donc à la commune, qui s'appelle Saint-Pierre de Maillé. Et puis une autre paroisse sous le vocable de Saint-Pierre. Fell, P-H-E, accent grave, L-E. Mais croyez-le, croyez-le pas, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé de Saint-Fell. Peut-être quelqu'un pourra m'aider. Et cette paroisse de Saint-Fell a été supprimée à la Révolution. André Hubert a été baptisé à Saint-Pierre le 7 décembre 1752, soit le lendemain de sa naissance, par le curé qui était son oncle, et qui s'appelait, lui, Antoine Fournet de la Frédinière. Comme on voit, il y avait un peu de noblesse dans cette famille, mais lui, son père ne portait que le nom de Fournet, par simplicité sans doute, et par humilité. Les parents d'André Hubert Fournet sont d'ailleurs plutôt à l'aise, et même presque riches. Et heureusement, ce sont de bons chrétiens. Le jeune André Hubert est l'avant-dernier de leurs 10 enfants. Oui, 10 enfants. Et il démontre bientôt qu'il a un bon caractère, joyeux. Un peu trop, peut-être. Et il sera d'ailleurs comme ça toute sa vie, même quand il sera un grand saint. Mais c'est un exalté. Et il n'aime pas l'effort. Un peu paresseux. Il n'aime pas le travail non plus, il aime mieux s'amuser. On peut dire que c'est même un enfant décourageant pour ses parents parce qu'il n'a aucune ambition, d'aucune sorte. Un peu plus tard, d'ailleurs, il va se définir lui-même en écrivant sur un de ses livres de classe, comme on fait quand on colle au début d'un livre un ex-libris, hein, vous connaissez ça, ces espèces d'étiquettes que l'on met pour identifier que le livre nous appartient. Alors il a écrit donc sur un de ses livres, comme ça. Ce livre appartient à André Hubert Fournet, bon garçon, qui ne veut être ni moine ni prêtre. Il était bien décidé à mener une autre vie que celle-là. Avait son oncle prêtre. Une telle déclaration a causé un petit scandale, on le comprend, dans la famille. Il faut dire qu'il n'a pas qu'un oncle curé, il en a 4 oncles curés. Et même un 5e qui est capucin. Il a 2 tantes qui sont filles de Notre-Dame. N'a rien à voir avec notre congrégation de Notre-Dame, évidemment. Monsieur Fournet, son père, l'envoie donc à Chauvigny, puis au collège de Châtellerault, pour y faire son cours classique, ses humanités, comme on dit. Et ce jeune André Hubert se montre un bon camarade, il a beaucoup de plaisir avec ses amis. C'est un élève, quand même, par rapport à ses professeurs, plutôt distrait et même paresseux. Il reçoit des réprimandes. On le punit. Et finalement, devant tout ça, il décide de s'enfuir. C'est un drop-out. Il se range vraiment là, parmi ce qu'on appelle aujourd'hui les drop-out. Puis il se rend petit à petit finalement chez lui. Mais ses parents le retournent au collège. Et ils l'ont bien engueulé. Après ces années de collège, finalement, où il s'est un peu calmé, il part pour Poitiers, qui est à 40 kilomètres à peu près, ou un peu plus. Et puis, il aime bien ça, Poitiers. Oh, c'est pas parce que les études de philosophie ou de droit lui plaisent vraiment à ce point-là, non. Mais c'est parce que dans cette ville de Poitiers, quand même assez grande, raisonnable, il retrouve beaucoup de parents puis d'amis qui appartiennent à la bonne société, là. Alors, il a besoin d'un peu d'argent. Et dans ce but-là, bien, il reçoit la tonsure le 23 décembre 1769. Il se fait tonsurer, c'est-à-dire, pour expliquer aux plus jeunes, il se fait tailler un peu de cheveux sur le haut de la tête, en forme d'un cercle de la grandeur à peu près d'une grande hostie que le prêtre tient à la messe. Et c'est une façon de se cléricaliser, il devient un clerc. Et à cette époque, c'était avant la Révolution française, ça lui a permis d'être pourvu d'un petit bénéfice qui lui rapportait de l'argent. Il avait le titre de chapelain de la chapelle Saint-François dans l'église de Bonne près de Chauvigny. Mais ça ne l'empêche absolument pas de s'amuser beaucoup. Plutôt honnêtement, d'ailleurs, parce que c'est pas un mauvais gars. Mais il travaille si peu qu'il s'aperçoit un jour qu'il ne peut prétendre finalement à aucune situation. Puis en désespoir de cause, bien, il s'engage dans l'armée. Imaginez, il est clair, il s'engage dans l'armée. Il vient se présenter en uniforme à son oncle, le curé de Maillé, qui le reçoit très froidement, un clerc soldat, imaginez. Sa mère, Madame Fournet, réussit donc à persuader son fils d'acheter, oui, un remplaçant. Ça se faisait comme ça, à coup d'argent. C'était vraiment décadent à l'époque. Puis elle essaie de le placer dans un bureau à Poitiers, mais son écriture est bien trop mauvaise. Il n'a jamais appris à écrire comme du monde. Personne ne veut de lui. Vous voyez le genre, hein? Et finalement, un de ses oncles, le curé de Hins, qui s'appelle Jean Fournet des Minières, entre Saint-Savin, dont je vous ai parlé tout à l'heure à cause de ses belles fresques romanes, donc du XIIe siècle, et Montmorillon, mais ce curé qui est bon consent à prendre chez lui son neveu, dont personne dans la famille ne veut, justement, excusez-la. Alors, la paroisse de Hins, H-A-I-M-S, c'est une paroisse pauvre et rude. Et son oncle curé, qui n'a pas encore 50 ans, s'impose de vivre aussi pauvrement que ses paroissiens. C'est un bon prêtre. Mais son zèle n'a rien pour le rendre amer. C'est un homme bon et tendre. Il gagne aussitôt la confiance de son neveu. C'est un bon prêtre, comme vous voyez. Alors André Hubert réfléchit. Il se décide. Il pose le geste clé. Le premier geste clé. C'est sa première conversion. Il fait une confession générale. Il a 21 ans. Le 26 mars 1774, il entre au séminaire de Poitiers. C'est vraiment sa première conversion. N'oubliez pas, c'est son oncle prêtre qui le guide. Que les prêtres sont importants dans la vie spirituelle des jeunes. Il est plus assidu là à apprendre la théologie qu'il ne l'avait été pour les études ordinaires là, de droit et de philosophie. Il est ordonné prêtre à la fin de 1776, mais il n'est pas tout à fait converti. Il est aussitôt nommé vicaire de son oncle, le curé de Hins. Il a tout juste 24 ans. C'était l'âge où on ordonnait les prêtres jusqu'à tout récemment. Hein? La plupart des prêtres étaient ordonnés à 24 ans. Et beaucoup plus tard, quand il sera entouré de disciples fidèles, il va raconter ses débuts dans la prédication d'une façon plutôt propre à amuser son auditoire. Il avait soigneusement préparé son premier sermon. Mais quand, du haut de la chaire, fallait monter dans la chaire pour être entendu de tout le monde, là, il a vu tous les yeux braqués sur lui, puis il a eu le trac. Il n'a pas pu dire un mot. Il a préféré se cacher dans le creux de la chaire. Il dit « J'étais blotti dans la chaire comme un lapin dans son trou, et si mon oncle ne m'avait envoyé chercher, je crois que j'y serais encore. » Et c'est comme ça qu'il commence à être prêtre, avec le trac, une absence de conversion totale qui va venir petit à petit grâce à Dieu. Nous pouvons écouter maintenant Don André Laberge, qui nous interprète au clavecin une œuvre de Jacques Dufy, qui est mort en 1789, une Allemande. Notre futur Saint-André Hubert Fournet a 26 ans, et en janvier 1779, il quitte le vicariat de Hins, où il est l'assistant de son oncle curé, pour devenir à la paroisse Saint-Fel de Maillé, dont je vous ai parlé, ce Saint-Fel complètement ignoré, dont je ne retrouve aucune trace, P-H-E, accent grave, L-E. Alors, il est vicaire d'un curé plutôt assez difficile. Son oncle, Antoine, curé de Saint-Pierre, baptisé, a pu observer à loisir la conduite de son neveu. Il en était d'ailleurs assez satisfait, même si satisfait qu'il finalement il résigne sa propre paroisse en sa faveur. Puis le 10 février 1783, alors qu'il a 30 ans, André Hubert Fournet prend officiellement possession de la paroisse où il est né, où il a été baptisé. Les 4000 livres, pas des livres pour lire, mais des livres de l'argent, que rapporte la cure de Saint-Pierre de Maillé, viennent s'ajouter donc aux revenus familiaux d'André Hubert Fournet, qui est né dans une famille à l'aise, et il voulait pas échapper aux obligations de sa charge. Il entend donc organiser confortablement sa vie avec tous ses revenus. Il fait, comme bien des prêtres que je connais, qui ont de l'argent, il s'organise une bonne vie confortable. J'en connais de très pauvres. J'ai été édifié parfois aux larmes dans des paroisses de Montréal en allant prêcher et en voyant la simplicité, l'humilité, la pauvreté de ces prêtres qui étaient prêts à me donner la moindre chose. Alors lui, ce prêtre, ce futur saint, ne refuse pas d'aider les pauvres à condition de pouvoir recevoir souvent ses amis. Des amis qui sont choisis parmi les nobles et les bourgeois d'alentour. Il a une façon de prêcher qui est plutôt un peu prétentieuse. Hein? C'est une allure, comme on dit, oratoire. Ça montre suffisamment que ses préférences vont aux gens de la bonne société. C'est ceux-là qu'il veut servir. Hein? Et servir, il veut surtout être leurs amis, leur ami. Et cette conduite, évidemment, ne satisfait ni son oncle, qui lui reproche de ne pas prêcher tout simplement l'Évangile, ni sa mère, ni sa sœur qui vivent avec lui, et au presbytère, et qui remarque qu'il ne pratique pas, pour ainsi dire, ce qu'il expose avec pompe et suffisance dans ses sermons. À partir de 1783, notre jeune curé a pour vicaire un saint prêtre. Encore un saint prêtre. Je vous donne son nom, l'abbé Guillon, dont la vie mortifiée est pour lui un exemple, et en même temps qu'un reproche, un reproche silencieux. Un jour, notre curé de Maillé, qui dans sa salle à manger bien préparée attend ses invités, voit entrer un mendiant qui lui demande la charité. C'est bien le moment. Alors il s'excuse, il est poli quand même. Il n'a rien donné. Comment, s'écrie le pauvre homme, vous n'avez pas d'argent? Et votre table en est couverte. Vous avez des plats d'argent, j'imagine. Cette réponse cinglante entraîne la décision qui couvait depuis longtemps. Notre abbé Fournet, le futur saint, vend donc ses meubles et son argenterie. Il étonne tout le monde, il se met au pain noir et aux légumes. Puis prolonge ses méditations. Il compose des sermons qui vont vraiment édifier ses fidèles. Et c'est là sa deuxième et grande conversion. Son sacristain va dire plus tard, « Monsieur le curé, au commencement, vous prêchiez si bien, et si bien que personne ne vous comprenait. Mais maintenant, tout le monde comprend ce que vous dites. » Je répète, parce que c'est tellement extraordinaire ce que ce sacristain lui dit. Je trouve ça délicieux. On devrait écrire ça dans toutes les sacristies. Hein? « Ah, monsieur le curé, au commencement, vous prêchiez si bien, et si bien que personne ne vous comprenait. Maintenant, tout le monde comprend ce que vous dites. » Je pense à ces prêtres qui nous arrivent avec des textes théologiques et qui nous lisent sans chair. C'est ennuyant comme la pluie. Pauvre prêtre. Je pense aussi aux autres qui se donnent corps et âme pour nous aider, pour nous secourir, pour nous transformer. Ce sont de vrais curés comme ce saint. Ce curé transformé influence bientôt tous ses paroissiens. C'est une influence aussi profonde qu'excellente. Et sans le savoir, il les prépare, finalement, à affronter quoi? Bien les terribles épreuves de la Révolution française de 1789. Dans le Poitou, comme ailleurs, d'ailleurs. Poitiers, c'est dans le Poitou, évidemment. On est près de Poitiers, là, à Maillé. Mais la constitution civile du clergé, j'ai déjà tout expliqué ça, surprend les prêtres, qui discutent et discutent sur le parti à prendre quand on les oblige à y prêter serment. Allons-nous prêter serment, oui ou non, à l'État nouveau, à la République, ou si on doit rester fidèle au pape? L'évêque de Poitiers a, à la tribune de l'Assemblée constituante, refusé de jurer. Alors l'abbé Fournet suit son exemple, l'exemple de son évêque. Il encourage ses confrères à la résistance, mais il ne réussit pas à en persuader beaucoup parce que les autres ont peur. Hein. C'était très dangereux, hein. Menacé de mort. Dès septembre 1791, il doit donc céder son église et son presbytère à un intrus, un pauvre prêtre qui s'est soumis. Il ne faut pas les blâmer, moi je ne les blâme pas. Quelle tristesse que ces révolutions drastiques, barbares, dictatoriales. Hein. Alors, notre curé Fournet organise dans la clandestinité le culte catholique avec un succès qui lui vaut de grandes, grandes consolations, mais aussi des rancunes terribles. Quelques exaltés sont prêts a évidemment faire un mauvais parti aux prêtres sans attendre la promulgation des lois anticatholiques. Ils ont hâte d'en tuer des prêtres, et sans sentir le besoin aussi de camoufler tous ces assassinats par un simulacre de jugement. Des gens qui veulent tuer des prêtres, il y en a toujours. Et la journée du Vendredi Saint de l'année 1792, entre autres, a bien failli se terminer par un massacre. Les gardes nationaux découvrent au château de Villemort une dizaine de prêtres réfractaires qui n'ont pas voulu prêter serment, réunis pour célébrer ensemble l'office du jour. Alors ils les amènent au chef-lieu de canton, à Saint-Savin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est situé, disons, à une lieue, et le curé André Hubert Fournet est particulièrement remarqué et injurié. Et dans la cour de l'abbaye, où l'abbaye Saint-Savin, où il a été conduit, un énergumène se précipite sur lui, baïonnette en avant. Il est sauvé de justesse par un garde national qui s'interpose et reçoit une blessure. Et peu après, un autre jette sa baïonnette dans sa direction. Elle l'aurait atteint si un témoin n'avait eu la présence d'esprit de bousculer le curé de Maillé. Comme quoi il y avait parmi ces révolutionnaires des gens sincères et honnêtes qui étaient pris dans le système. Alors, les populations ne sont quand même pas mûres pour la persécution. Puis les responsables n'osent pas braver le pignon des gens. Alors ils relâchent leurs prisonniers. Et sur le chemin de sa paroisse, le curé de Maillé est aperçu par des volontaires qui le saluent par des cris « Allô! Allô! On veut le jeter à l'eau! » Et l'un d'eux le sauve. Encore un autre qui est honnête, en lançant une de ses réflexions sottement comiques, dont l'effet est souvent excellent dans des cas comme ça, hein? « Citoyens, voulez-vous gâter l'eau de la rivière en y jetant ce pauvre insignifiant? » Et c'est comme ça qu'il est sauvé de la mort et de la noyade. Et alors, peu de temps après cette journée où il a failli être noyé, journée extrêmement difficile pour notre saint, Pierre-Hubert Fournet, eh bien, près du moulin, ou d'un moulin de Busseret, deux gendarmes le prennent en chasse, et la fuite est impossible. Qu'est-ce qu'il peut faire, l'abbé Fournet? Il voit une croix de bois sur le bord du chemin. Alors il va se placer devant elle. Il étend les bras, comme le Christ. Et là, les gendarmes, qui sont évidemment catholiques, ont peur. Ils sont stupéfaits. Il s'arrête, puis l'un d'eux s'écrie, puis l'abbé Fournel l'entend. Il faudrait être pire que Judas. Et là, ils disparaissent. Alors, ces incidents ne l'inquiètent pas outre mesure, notre abbé Fournel. Ils l'inquiètent pas seulement, de toute façon, pour sa vie puis sa liberté. Il se demande s'il peut continuer à compromettre par sa seule présence à ses parents, sa famille, ses amis. Pour lui, ça devient plutôt téméraire de continuer à s'exposer à la persécution quand le pape et son évêque conseillent la fuite. Alors, il se demande si ce ne serait pas mieux d'obéir au décret qui oblige les prêtres qui n'ont pas prêté serment à quitter la France, plutôt que de risquer la déportation en Guyane, en Amérique du Sud. Il laisse donc le soin des âmes aux prêtres âgés, qui, eux, ne sont pas frappés par toutes ces mesures. Alors, il part pour l'Espagne, comme je vous ai dit au tout début de l'émission, avec plusieurs prêtres du diocèse de Poitiers. Ils se rendent jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, d'où un bateau les transporte à Saint-Sébastien. Le gouvernement espagnol, qui se méfie d'eux, leur assigne des résidences éloignées de la frontière, et l'abbé Fournet est placé en Navarre, sur la route de Pampelune, à Logroño, à Los Arcos, où on le nomme chapelain. Ça lui rapporte un peu d'argent pour survivre. C'est une fonction peu absorbante. Il occupe ses journées par de longues prières, des visites aux malades. C'est comme une longue retraite pour lui. Los Arcos est sur la vieille route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, notre abbé Fournet entreprend justement le grand pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle avec un de ses amis. Il se soumet à des pratiques d'austérité très sévères. Il en tombe malade à Burgos. Puis il doit se laisser hospitaliser au célèbre monastère de Las Huelgas, où Il reste un mois environ. Je vous dis, c'est comme une longue retraite, tout ça. Hein? Le pèlerinage est donc interrompu, puis l'abbé Fournet rend finalement à Los Arcos, porté par un âne, comme Jésus qui rentre à Jérusalem. Un âne qu'on lui a vendu sans lui dire qu'il est aveugle. Alors, il n'est pas tellement satisfait de sa vie d'exilé, finalement, parce qu'il voudrait sauver les âmes. Mais il a d'autres aspirations mystiques. Et l'abbé Fournet demande donc d'être reçu chez les Carmes des Chaussées. Mais le provincial s'y oppose. À la fin de 1797, il n'y tient plus. Là, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose, alors il prend le chemin de la France, monté sur un petit cheval andalou que lui a offert son hôtesse. Puis il passe la frontière, secrètement pour entrer en France, sans passeport. Et malgré tous les innombrables postes de contrôle qui sont installés sur les routes, il est merveilleusement servi par son cheval andalou qui détale à toute vitesse quand il voit un uniforme. Puis il arrive à Poitiers. Il gagne bien vite sa paroisse de Maillé, celle où il est né, où il a été baptisé le lendemain de sa naissance. Et bientôt, c'est le coup d'État du 18 Fructidor. Le 18 Fructidor, ça vous dit quelque chose? C'est le 4 septembre 1797. On appelait ça le 18 Fructidor, c'est parce que les 12 mois du calendrier républicain avaient changé de nom, hein. Ça avait été décrété, c'est le 5 octobre 1793, par la Convention nationale. Et puis, l'année commençait donc à l'équinoxe d'automne. Oui, comprenez, 12 mois de 30 jours, plus 5 ou 6 jours, selon qu'il y avait une année bissextile. Alors, le 18 Fructidor, c'est le coup d'État qui a été exécuté par le Directoire contre les royalistes élus en l'an 5 de ce nouveau calendrier. Le calendrier, d'ailleurs, qui avait de beaux noms, au fond, pour les mois, a été aboli par Napoléon Ier le 1er janvier 1806. Alors, revenons donc au coup d'État du 18 Fructidor, le 4 septembre 1797. Ça déclenche une nouvelle vague anti-religieuse et l'abbé Fournet, notre saint, n'a nulle envie de prêter le serment de haine à la royauté, qui pourrait lui valoir une certaine sécurité, quoi, relative. Hein. Il préfère mener la vie errante d'un missionnaire, comme on disait à l'époque, clandestin, quelqu'un qui célèbre la messe ici et là, qui risque toujours d'être pris, et à Maillé, dans les paroisses où il n'y a plus de prêtres, eh bien, c'est facile pour lui de trouver une ferme isolée ou une grange pour célébrer la messe, pour baptiser, pour confesser, pour bénir des mariages. Et quand les gendarmes se montrent, eh bien, le prêtre disparaît vite. Et on dissimule son identité. Alors, un endroit qu'on appelle les Côtés, la fermière le gifle comme un valet paresseux pour éviter qu'il soit saisi par les gendarmes, parce qu'il est évidemment pas habillé en prêtre. À l'appui, P-U-Y-E, où il a fondé une communauté religieuse, on lui fait faire le mort. Quelquefois, les gendarmes eux-mêmes évitent même de le voir. Ils le reconnaissent, mais font comme s'ils ne l'avaient pas vu. Avis qu'ils arrivent au milieu des préparatifs de la fête de Dieu et devant l'attitude de la population, les gendarmes repartent sans oser toucher aux prêtres. Ils risquent la mort continuellement. Mais cependant, si le pays est relativement calme dans cette région, le travail est écrasant. Le curé est durant l'hiver renversé par son cheval qui glisse sur la glace puis il se casse la jambe. Il est pour un moment si gravement malade qu'on le croit mourant presque à l'extrémité. Alors aux prêtres qui ont traversé la Révolution malgré tant de dangers, là, le concordat de 1801 n'apparaît pas comme le début d'une période de prospérité. Hein. Le curé d'Angle, mais a propagé le schisme de la petite église, on appelle ça le schisme de la petite église. Vous savez qu'il y a en France plusieurs églises, on en a une ici à Saint-Jovite, des églises qui se disent catholiques et qui sont séparées de nous. Alors, donc, ce schisme de la petite église, là, sous la conduite du curé d'Angle, propage le zèle qu'il a employé autrefois à défendre la foi. Il essaie d'entraîner dans ce schisme son voisin et ami, M. Fournet, qui ne put réussir à raisonner ce prêtre schismatique. Il finit par se séparer entièrement de lui. En donnant son adhésion au concordat le 23 janvier 1804. Il a même le courage d'offrir sa démission de curé de Mailly, mais son évêque, qui connaissait sa valeur, le maintient dans sa charge, et là, le clergé a été décimé. Et on en a tué tellement, on en a envoyé ailleurs, ils se sont répandus à travers le monde. Assisté d'un vicaire, M. Fournet ne se contente pas de relever sa paroisse, qui a été agrandie par la suppression de celle de Saint-Fel, l'autre paroisse de Mailly. Alors il consent à se rendre en missionnaire à l'appel de ses confrères à Angles d'abord. C'est très joli, Angles. Puis à Béthine, à La Roche-Posée, où c'est très beau aussi, à Saint-Savin, où il y a les fresques, à Montmorillon, enfin, en 1816, jusqu'à Civray. Et en même temps, il se voit chargé d'une congrégation de religieuses qu'il a fondée, presque sans l'avoir voulu, les Filles de la Croix. Au commencement, en 1798, alors qu'il célébrait la messe dans la grange de Marcilly, il y avait une jeune fille de 24 ans qui était venue le joindre, qui était venue se joindre à l'assistance, quoi. C'était Mademoiselle Bichier des Âges. Des Âges, A-G-E-S, Bichier des Âges. C'est la fille des châtelains de la Guimetière, près de Béthine, justement, qui ne voulait pas s'adresser à son curé parce qu'il avait prêté le serment à lui. Et elle cherchait un confesseur capable de la diriger dans les voies de la perfection. Elle aspirait à la sainteté. Et l'abbé Fournet ne refusait son ministère à personne. Mais il ne voulait connaître aucun privilège. Et sa nouvelle pénitente a dû attendre son tour pendant 8 heures. Elle appréciait ce directeur, ce prêtre séculier sans faiblesse. Et elle s'est mise aussitôt sous sa conduite. Elle a accepté un règlement de vie qui partageait son temps entre la prière, le travail, le soin de sa vieille mère, la visite des pauvres, puis l'instruction chrétienne des petites filles. Alors les résultats ont été tels qu'à Pâques 1804, elle a dû s'adjoindre, avec la permission de son directeur, 2 jeunes filles, c'est le début. La mort de sa mère, au mois d'octobre suivant, lui donne toute liberté. Le curé de Mailly, qui avait pensé sérieusement à entrer à la Trappe ou au Carmel, l'envoie à Poitiers faire un stage dans une communauté pour s'initier à la vie religieuse. Puis il l'a fait s'installer sur sa paroisse, au château de Mollante. Et là, en février 1807, donc 3 ans plus tard, les 5 premières sœurs y ont prononcé leurs vœux et ont reçu le nom de Filles de la Croix. Et la communauté ne tarde pas à s'accroître, malgré toutes les nombreuses fondations, dont la première a lieu à Béthine, là, où était le château de cette fondatrice, dès 1808. En 1811, encore 3 ans plus tard, les sœurs transportent leur maison-mère dans le bourg de Mailly, la ville, le village natal de notre saint, auprès de l'église Saint-Fel, qui est désaffectée. Alors là, le fondateur puis la fondatrice sentent bientôt le besoin de décrire des constitutions, hein, puis cette bonne mère note ses idées, ses expériences, le curé leur donne une forme juridique, il est très compétent, c'est un homme instruit, puis il les présente au vicaire capitulaire de Poitiers, qui, lui, le 30 octobre 1816, les approuve sans réserve. Mais, petite réserve, petits adoucissements à quelques pratiques ascétiques. Alors là, il nomme supérieur sous l'autorité de l'évêque, M. Fournet, curé de Mailly. Puis la supérieure, M. Sœur Bichier des Âges. Alors la nouvelle congrégation continue à s'accroître et dès 1818, bien il faut songer sérieusement à trouver de nouveaux locaux pour la maison-mère. Là alors le bourg de Mailly ne possède aucun immeuble convenable. Mais à 8 kilomètres de là, au village de l'Appui, voyez-vous, l'Appui, c'est là que j'ai acheté ce beau livre qui raconte la vie de Pierre-Hubert Fournet, bien, il existe là un peu dégradé, mais encore solide. Là, il y a des grands bâtiments d'un ancien monastère de Fontevriste. Les Fontevristes, c'était des bénédictins de Fontevraud, qui avaient fondé d'autres monastères, une grande communauté. Et en réussissant ce qui reste de leur fortune, bien, les 2 fondateurs ont pu le racheter aux 14 propriétaires qui l'occupent. Parce que les gens s'installaient après la Révolution dans des monastères à plusieurs, comme ça, beaucoup de familles. Alors, ils vendent le monastère. Et les 14 propriétaires, ils déménagent, puis le jeudi 25 mai 1820, les sœurs puis leur père quittent Mailly pour leur nouvelle résidence. Alors là, les paroissiens de Mailly ont bien des regrets, évidemment, que celui qu'on appelait plus que le père André quitte la paroisse à laquelle il s'était tant dévoué depuis 37 ans. 37 ans! C'est vrai que... Il allait pas tellement loin, notre bon père, que l'approbation de son évêque lui garantissait qu'il accomplissait la volonté de Dieu aussi. Ça impressionnait les fidèles. Hein? Alors son action auprès de la nouvelle congrégation des Filles de la Croix devait avoir une efficacité incomparable. Mais sa santé était de plus en plus fragile. Ça lui permettait plus d'assumer trop de charges. Et par ailleurs, il y avait cette obligation de la résidence qui lui aurait interdit de se rendre dans les maisons dispersées dans toute la France, jusque dans les Pyrénées, là, au sud de la France. Donc, à l'appui, P-U-Y-E, il aide le curé, il se rend souvent dans les églises dépourvues de prêtres résidents, il visite les malades, il évangélise sans cesse tous ceux qu'il rencontre. Il a sur les prêtres une action très, très féconde. Hein? Un saint prêtre en influence toujours des dizaines d'autres. Hein? C'est automatique, ça. C'est Cardan, fond de tout prêtre, qui a plus ou moins raté sa vocation, il y a toujours un saint qui sommeille. La grâce sacerdotale est immense. La vocation à la sainteté est encore plus forte, je crois, chez un prêtre, par cette onction sacerdotale. C'est un berger, un prêtre. Hein? Alors, il suscite de nombreuses vocations, et plus de 30 certainement. Il encourage et soutient nombre de prêtres engagés dans des ministères difficiles et ingrats, et qui viennent à lui comme vers un ami, un guide sûr. Et là, le père André profite surtout de ses dernières années pour infuser à ses filles de la Croix le parfait esprit religieux. Il leur fait presque tous les jours, à 2 heures, une conférence spirituelle, dont les sujets varient, mais qui reviennent à quoi? Aux 2 exemples qu'il leur propose continuellement, Jésus au calvaire et Marie au pied de la croix. Il n'y a rien de malsain là. Hein? C'est un grand amour pour l'amour qui est manifesté par Dieu crucifié. Le Père manifeste tout son amour dans le don que son Fils fait de sa vie. Et Marie, au pied de la croix, reçoit cet amour. Elle l'offre au Père, comme on doit le faire nous-mêmes. Et en guise d'avis pratique, il commente le cahier journal où les fautes extérieures étaient inscrites, soit spontanément par les coupables, soit par les supérieurs ou directrices d'emploi. Puis ces réprimandes, elles sont parfois rigoureuses, mais les sœurs sentent toujours en lui quoi un homme juste, désireux seulement de procurer leur avancement puis le bien de la congrégation, parce que la spiritualité de ce saint est simple, claire et précise, comme il convient à un homme d'action. Malgré sa mauvaise santé, le père André, Saint André Hubert Fournet, dépasse 80 ans. Puis l'affection puis la vénération que lui témoigne son entourage, les miracles qu'on lui attribue, c'est extraordinaire, les guérisons et multiplications de blé, vous direz, c'est pas possible, mais oui, ne l'empêche pas de constater que la vieillesse, évidemment, l'empêche de faire tout ce qu'il voudrait. Et courageusement, il demande à son évêque de le décharger de ses fonctions de supérieur général en faveur du curé de Chauvigny, M. Thory. Sa demande reçoit donc une solution qui plaît à tout le monde. Et M. Thory lui est donné comme coadjuteur et non comme successeur, mais dès lors, son plus grand souci, c'est de se préparer à la mort. Le 27 avril 1834, il célèbre sa dernière messe. Il ne peut plus célébrer la messe. Le 3 mai, il récite pour la dernière fois son bréviaire, qu'il aimait beaucoup. Puis il reçoit l'extrême onction le 11 mai, une semaine plus tard. Et finalement, il meurt bien doucement, au matin du 13 mai 1834. Dans ce beau livre que je me suis procuré là-bas, Saint-André-Hubert-Fournet, curé de Maillé, diocèse de Poitiers, fondateur des filles de la croix, dite sœur de Saint-André. Vos livres liés, rouges. Je lis à la page 173. L'amour de Dieu implique l'amour du prochain. Pour le père André, le prochain, c'est encore Dieu. Il voit notre Seigneur dans la personne d'autrui, surtout dans les pauvres et les malades. Ce sentiment de son cœur, il l'exprime parfois de la manière la plus élevée, la plus touchante. Un jour, rentrant chez lui, il demande à sa sœur Catherine si elle n'aurait pas un pantalon à lui donner. On dit, ça sera encore une de tes largesses. Et en effet, ne conservant que sa soutane, il avait donné à un pauvre son pantalon et sa chemise. Il n'avait plus que sa soutane sur lui. Que veux-tu? J'ai rencontré notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvais-je lui refuser quelque chose? Et ce sentiment se manifestait à tout propos. La maison était le rendez-vous des mendiants. Il les recevait souvent dans sa chambre. Il les faisait chauffer. Il faisait tellement froid dans ce temps-là. Le chauffage, c'était pas central. Il faut l'avoir goûté, comme j'y ai goûté après la guerre en France. C'est épouvantable. Il faisait chauffer, dîner, boire dans son verre. Un jour, il prend le verre qui avait servi à l'un d'eux en disant « Ah, que je boive après notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous direz qu'il était complètement parti. Moi, je dis qu'il était complètement saisi par Jésus-Christ. Un point, c'est tout. On ne rabaisse pas les saints. On les admire et on se dit que je suis petit, Seigneur. Fais que je fasse au moins le centième de ce qu'il pouvait faire. Cette idée que le pauvre n'était que notre Seigneur, caché sous des haillons, devenait pour ce bon père le principe d'une charité sans bornes. Il témoignait une sollicitude toute paternelle aux petits mendiants ou aux vagabonds qu'il rencontrait sur les chemins. Et quand il était à cheval, il les faisait monter en croupe derrière lui et les amenait dans sa maison. Il leur donnait la chambre et le lit réservé aux étrangers. Il les faisait manger avec lui, les instruisait le plus possible des vérités de la religion. Il leur procurait ensuite quelques places pour qu'ils puissent gagner leur vie. Quand il voyait des pauvres dépourvus de chaussures, il les adressait à un sabotier du voisinage et un jour, ils se présentèrent en si grand nombre que le sabotier, qui faisait évidemment les sabots, alla trouver le bon père pour savoir s'ils étaient envoyés par lui. « Donnez des sabots, répondit-il, à tous ceux qui se présenteront. Je me charge de vous solder, de vous payer. » Il avait des dons extraordinaires. Il y a des faits merveilleux, d'après les attestations de plusieurs témoins oculaires, la prière du père André, comme on l'appelait, allait parfois jusqu'à l'extase. On le voyait alors immobile, insensible, à tout ce qui se passait autour de lui. Ce particulier, là, s'il priait devant le Saint-Sacrement, son visage, naturellement pâle, devenait rouge et enflammé. On l'a vu parfois élevé au-dessus de terre. Vous direz, ça n'a pas de sens. Eh bien, je vous raconte un fait. Une religieuse rapporte ce qui suit. C'était le jour de Saint-Jean-Baptiste, donc le 24 juin. Jour aussi de la première communion à l'appui. Le serviteur de Dieu prêchait devant une croix qui se trouvait placée sur l'ancien chemin qui conduisait à Pézé et près de laquelle on avait conduit en procession les paroissiens et les enfants de la première communion. Les enfants crièrent tout à coup et dirent à la sœur Saint-Vincent de Paul qui les conduisait, « Ma sœur, regardez donc le Père, il est en l'air. » La sœur leur imposa silence, disant, « Je vois bien, mais ne dites rien. » Et elle vint tout doucement m'avertir, parce que je tenais les yeux baissés, écoutant le Père qui parlait avec une animation et une dévotion extrême. Je le vis alors élevé à un pied et demi au-dessus de la terre. Il s'abaissa peu à peu. Le soir, plusieurs sœurs qui s'en étaient aperçues en parlèrent en communauté. Sœur Ludvine a rapporté un fait semblable, dont elle a été témoin, dans l'église de l'appui. Le serviteur de Dieu y faisait le chemin de croix. En présence de toute notre communauté, il prêchait chaque station. Je marchais derrière lui, portant une chandelle. ce que faisait avec moi une autre sœur désignée pour cela. À la 10e station, comme le bon père commençait à prêcher, je le vis élevé au-dessus du sol. Étant à côté de lui, je voyais clairement la lumière entre ses pieds et le pavé de l'église. L'élévation au-dessus du sol n'était pas tout à fait d'un pied, mais elle dépassait le demi-pied. À voir le serviteur de Dieu ainsi détaché du sol, je fus saisi de stupeur, et je ne pus m'empêcher de dire avec émotion aux sœurs qui se trouvaient à côté de moi, « Oh, 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 voyez le Père en l'air !» Les sœurs me firent signe de me taire et de ne pas troubler la cérémonie. Ce sont des choses que vous direz peut-être impossibles, mais elles sont vraies. Elles sont vraies. Quand il est mort, on lui a dit, votre état vous associe aux anges. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a dit, ses dernières paroles. Votre état vous associe aux anges. Soyez des anges visibles. Pour cela, que Dieu soit toujours dans votre esprit, votre cœur et votre conduite. Conservez l'attention à la présence de la divinité. Le souvenir de Dieu présent vous remplira de ferveur, de recueillement, de consolation, de crainte de déplaire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Plus de dissipation ni intérieure ni extérieure. Et ce sont là les derniers mots qu'il a prononcés. Les derniers mots de ce grand saint, Saint André Hubert Fournet, simple particulier dont on ne parle pas assez.